Pantagruel, Lucas Torrent.
Bonjour à tous, voici un jeune garçon, il a dans les 6 ans et demi et c'est le matin. Il se lève, il enfile ses sandales, s'enroule dans une sorte de vieux rideau et passe les 30 prochaines minutes à crier « Maman, où est-ce que tu as mis ma fibule ?» Finalement, il descend, mange pour le petit déjeuner du pain rassis avec de la semoule, mais pas trop pour ne pas avachir son corps. Et ensuite, il sort dans la rue, vite rattrapé par sa mère qui est furieuse parce qu'il a oublié de se nouer autour de son cou sa bulle en cuir remplie d'amulettes porte-bonheur. Ce jeune garçon n'est pas un marginal qui grandit à l'écart de la société dans une communauté alternative du Vaucluse et qui croit à la puissance des dauphins, des cristaux et du manger cru. Non, c'est juste un garçon normal, un citoyen qui vit durant l'Antiquité à Rome. Mais ce n'est pas tous les jours facile, surtout quand on doit finir sa ration de porc au garum. Aujourd'hui, nous allons explorer ce monde exotique, proche et éloigné à la fois avec notre classement, les 5 faits les plus étonnants de la vie quotidienne des Romains dans l'Antiquité. Si certaines choses étaient comme les nôtres, comme des bains publics, des routes balisées ou des gens qui se baladent en sandalettes, d'autres étaient beaucoup plus éloignées, pour ne pas dire choquantes pour nos esprits de 2015. Parce que depuis l'Antiquité romaine, on a quand même un tout petit peu changé, il faut le dire. Rendez-vous compte, par exemple, ils n'avaient même pas Internet. Oui, comment faisaient-ils sans Internet? C'est fou, c'est le genre de choses dont on va parler, ça va être fascinant. Pilum, peplum, oppidum, toilette publique et divorce en rafale, c'est la vie antique qui va nous occuper aujourd'hui. Bienvenue à tous.
Change, you steal my heart. Every time I taste your smile, an angel takes me to the stars. Tell me, how can I see all the colors of the rainbow if you don't stay right here with me? Ain't got no chance to be. Chance to be.
See all the colors of the rainbow if you don't stay right here with me.
Raphaël Gualazzi et Camille avec l'ami d'un Italien sur la première. On va aller en Italie avec Pantagruel, mais notre voyage va être loin dans le temps puisqu'on découvre les 5 faits les plus étonnants de la vie quotidienne durant l'Antiquité dans la Rome antique. Un sujet suggéré par l'équipe de l'Université de Genève, les sciences de l'Antiquité, qui met en place ce soir à Genève la nuit antique de 17h30 à 23h sur la promenade Saint-Antoine et à l'Unibastion. C'est quoi? C'est des stands, des animations, une pièce de théâtre, il y a de la musique. Pour se plonger dans la vie courante de l'Antiquité, vous pourrez même vous habiller à la mode antique pour voir si vous restez digne en toge. Rassurez-vous, la réponse est généralement non. Et argument massue, c'est gratuit. Pour nous aider à réaliser ce classement, l'aide précieuse de Sophie Guelneux, des sciences de l'Antiquité de l'Université de Genève, le livre « La vie quotidienne du citoyen romain sous la République » de Florence Dupont et l'encyclopédie scientifique de référence pour les études antiques, le « Noi Pauli ». Qui veut dire peut-être nouvelle Pauline. Notre classement se classe du moins surprenant au plus surprenant. Voilà, et on commence avec le numéro 5. C'est tout ce que j'avais à dire. Et on vous promet à tous un très beau classement avec de l'émotion, mais surtout avec de la toge et de la sandalette.
Elle peut transformer une armée en vomi de crapaud. On dit que si elle vous touche, les pustules vous jaillissent du corps. On perce ses cheveux et on pisse soit de la boue. Elle peut maudire sur 7 générations.
Slooby 1, Slooby 2, Slooby 3, Slooby 4, Slooby 5,
325. Stop. Faut pas dire stop, faut dire Slooby.
Slooby.
Veuillez noter que ce sont les 5 dernières secondes avant la fin du disque.
Cinquième position des faits étonnants sur la vie quotidienne durant l'Antiquité romaine, la quasi-omniprésence dans la gastronomie romaine du garum, une sauce très salée et très forte préparée à partir de poissons ou de mollusques fermentés. Parfois comparée au gnocchmam, cette coutume alimentaire des Romains proviendrait de Mésopotamie, où l'on consommait aussi une sauce fermentée à base de poissons. Les Romains consommaient aussi de la rue fétide, Ruta graveolens, une plante qui est bénéfique pour la santé à très faible dose, mais toxique à forte. Elle était utilisée durant le Moyen-Âge comme un abortif puissant et c'était une plante qui avait une très très forte odeur. Les Romains différenciaient le fait de manger pour se sustenter et le fait de manger pour être avec les autres. Ce manger social se passait durant le seul repas codifié de la journée, la cena qui se passait le soir. La cena se passe avec la famille et des invités. Les hommes sont couchés, les femmes et les enfants sont assis à une table centrale. Le vin est toujours bu mélangé à de l'eau chez les Romains. Dans ce que l'on appelle des cratères, l'eau peut être chaude ou même salée. Alors pour nous, le Romain qui mange, on a tout de suite l'image de quelqu'un de bedonnant, un peu adipeux, avec de la sueur grasse qui lui coule sur le front, il est couché. Son gros ventre déborde et il mange des gésiers de porc confits aux oreilles d'ananas ou des arrières de fennec en sauce. Eh bien, figurez-vous que pour de vrai, dans la Rome antique, le Romain était plutôt quelqu'un propre sur lui, quelqu'un qui aimait son corps, quelqu'un qui se baladait à peu près nu sous sa toge, parce qu'il n'avait pas froid, parce qu'il s'était façonné, et quelqu'un qui mangeait frugalement. Dans la journée, on se mangeait un petit bout de pain sec, un petit légume pour les plus gourmands, un peu de bouillie d'avoine. Et c'est seulement le soir, entre amis, qu'on mangeait un peu plus. Et c'était seulement selon des grands banquets qu'on s'en mettait plein la panse. En fait, le Romain de l'Antiquité est un peu comme un expert comptable à Spoons qui s'octroie au plus une petite pause sandwich au thon à 12h30 devant son ordinateur, mais pas plus. Beaucoup plus donc qu'un Bacchus en surpoids.
Pas besoin de 4 bras pour nettoyer votre maison.
Le 4.
Il y a une locomotive des CFF qui s'appelle Eric-4, ça veut dire 4 essuie-moteurs.
4. Les animaux, il y a certains animaux qui ont 4 pattes.
1 fois 4, 4. 2 fois 4, 8. 3 fois 4.
Les 4 heures,
12.
Si une chaise, elle a un pied, bah, elle tient pas. 2, elle tient pas, mais un 3, elle tiendra.
Vous avez des chaises à 3 pieds chez vous?
Non, mais je sais que ça tient.
En ce moment, la 4 est encore mieux que le 3.
Voilà.
Nous exécuterons votre ordre demain à 4h44.
En quatrième position des aspects les plus étonnants de la vie quotidienne durant l'Antiquité à Rome, l'importance du calendrier romain sur la vie quotidienne, et notamment les jours fastes et néfastes. Le calendrier dit Julien est restauré par Jules César en 46 avant Jésus-Christ. C'est le calendrier qui est à la base de notre calendrier grégorien. Il n'y a cependant pas de semaine de 7 jours, mais des périodes de 9 jours. Le 9e correspond au jour de marché, et certains jours sont fastes et d'autres jours sont néfastes. Les jours néfastes dédiés aux dieux aucun procès et aucune assemblée populaire ne pouvait avoir lieu. Certains jours néfastes étaient des jours dits fériés. En latin, des interdictions supplémentaires existaient et ces jours étaient dévolus à des célébrations religieuses. Le terme fasti désigne aussi des calendriers sur parchemin ou gravés dans le marbre. On en a retrouvé de nombreux, notamment à Rome. Ces calendriers se présentent sous la forme de 12 colonnes, une colonne par mois. Et dans chaque colonne, chaque jour est associé à une lettre qui indique si c'est un jour faste ou néfaste. Il y avait aussi des jours qui commençaient faste et devenaient néfastes, ou encore des jours dits jours noirs. Imaginez, vous qui avez peut-être des difficultés avec les jours fériés actuellement en Suisse, alors qu'en Suisse, il y en a 4 ou 5 selon les cantons. Imaginez, vous qui vous retrouvez systématiquement devant la COP fermée le lundi de Pentecôte en vous disant « Ah oui, zut, c'est férié aujourd'hui !» Et comme toute réserve dans vos armoires, vous avez une endive faisandée, un fond de cornette et une boîte de cœur d'artichaut périmée pendant que vos enfants pleurent dans la cuisine en disant « Papa, maman, on a faim, qu'est-ce qu'on va manger ?» Eh bien, si ça vous arrive souvent, imaginez-vous à Rome, vers 30 avant Jésus-Christ, avec une... dans l'année, il y avait 100 jours néfastes. Il y avait 100 jours fastes, il y avait des jours super fastes, il y avait des jours qui commençaient néfastes et qui tournaient en fastes. Ou l'inverse, avec des pauses fastes à midi. Enfin bref, il y avait des jours noirs où on était censé ne rien faire, pas faire grand-chose, le tout saupoudré de fêtes religieuses. Vous avez des sandalettes, vous avez une toge, vous êtes tout nu sous votre toge, vous avez froid, c'est la Rome antique. Vous vouliez acheter du cabillaud, c'est fermé, c'est la tuile. Et on se sent quand même très très éloigné de cette Rome-là.
Pantagruel, 16h-16h30 sur la première.
You know, wherever you go, I will follow you. And no matter what's wrong and how long, I will stand by you. You are the sweetest thing I've ever seen, the cutest girl I've ever dreamed of. You are perfect to me. You've got that funny side that makes me smile. My heart stops for a while, 'cause you are too much for me. I try to meet you all the time. That's why I'm sending all these lines. I still wait, wait, I'm still waiting for you. Waiting for your call. And I only sing this song for you, to show you I'm pressed against this wall. I still wait, wait, I'm still waiting for you. Waiting for your call. And I only sing this song for you, to show you I'm pressed against this wall. It seems that your dreams I just can't fulfill, but I'll just go on and write songs. I'll never give up on you. Yeah, with your curly hair and narrow hips, deep blue eyes and cherry lips, you're the girl of all of my dreams. And when I hear you talk and see you smile, I wanna kiss you for a while. I love you more than it seems. I still wait, wait, I'm still waiting for you. Try to find some words for you. I don't know how I'm getting through. I'm close to falling apart. 'Cause I still wait, wait, I'm still waiting for you.
I'm
C'est le Zurichois Nicklas avec le titre Waiting sur la première. Vous écoutez Pantagruel, notre classement du jour, les 5 aspects de la vie quotidienne durant la Rome antique les plus surprenants. Voici notre numéro 3.
C'est la troisième fois cette année et la dernière, j'espère.
Vous savez combien il y a eu de jours de soleil en juillet ?
Numéro 3. Troisième position des faits étonnants sur la vie courante à Rome dans l'Antiquité, les divorces étaient légaux et surtout ils étaient fréquents. La majorité des citoyens romains, hommes et femmes, se mariaient deux fois dans leur vie. Le mariage chez les Romains présente de nombreuses similarités avec le mariage chrétien qui suivra. Les hommes sont monogames, le mariage se fait avec le consentement des deux familles, l'union est proclamée durant des festivités légales et religieuses. Le but est de donner naissance, dans le cadre du mariage, à un héritier. Mais ce qui change, c'est la possibilité de divorcer et la fréquence de ceux-ci. Avant le 1er siècle avant notre ère, le mari pouvait invoquer le divorce pour toute faute grave de son épouse, adultère, infertilité, mais aussi copie des clés de la maison ou pour avoir bu du vin. En pratique, ces raisons n'avaient même pas besoin d'être réelles. Ensuite, après le 1er siècle avant Jésus-Christ, le divorce pouvait être souhaité librement par l'homme, mais aussi par la femme. Les remariages étaient fréquents et les femmes amenaient les enfants de leur ancien mariage avec elles. Parce que chez les Romains, quand Flavius Ctulus en avait marre de Flavinia, il pouvait lui dire en face et il pouvait demander le divorce, surtout s'il avait copié les clés de la cave et bu du rouge en cachette. Alors ça, c'était vraiment la mort. Mais quand Petula Maxima, elle aussi en avait par-dessus la tête des ronflements de son mari, Sextus Bolomée, eh bien là aussi, après le 1er siècle avant Jésus-Christ, elle pouvait aussi s'en aller, se remarier. Et donc les familles composées, recomposées, où on ne comprend rien parce que les enfants sont demi-frères, parce que le frère est l'oncle de la mère, ce n'est pas nouveau, ça ne date pas du 20e siècle, il y en avait déjà dans la Rome antique. Sauf que tout le monde était en sandalette et tout nu sous sa toge.
Il y en a ras-le-bol du tofu, ras-le-bol du tri sélectif, du compost, ras-le-bol d'avoir froid, ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol.
Que je te dise, heureusement qu'il y a le boulot.
Ça, c'est la jeunesse.
Allez, au boulot.
Tu m'as la danse, je te...
En deuxième position des aspects de la vie courante étonnante dans la Rome antique, l'existence et le nombre important des défixios. Les défixios étaient des tablettes utilisées pour lancer un mauvais sort. C'était donc courant. Le plus souvent, ces tablettes étaient en plomb. Sur ces tablettes était écrit le nom de la victime et parfois le nom d'une divinité. Les tablettes étaient ensuite enroulées dans du tissu et percées d'une aiguille ou d'un clou. Le plomb était le plus souvent utilisé pour sa résistance, sa facilité d'accès, mais aussi pour son aspect sombre et froid lié à la malédiction. Quand des causes de malédiction étaient inscrites sur les tablettes, elles relevaient le plus souvent de jalousie, de rivalité souvent sportive, d'amour, de commerce ou de procès. Les plus anciennes de ces tablettes datent de 600 avant Jésus-Christ, trouvées en Sicile actuelle. Les tablettes plus récentes ont des textes plus élaborés et appellent parfois à des démons et divinités exotiques comme égyptiennes. Vous êtes un citoyen romain, c'est un jour comme un autre. Vous venez le soir de vous avaler une bonne ration de viande aux légumes arrosés de jus de poisson fermenté. Vous avez bu votre coupe de vin coupée à l'eau salée, tout se passe pour le mieux. Vous en êtes à votre deuxième divorce. Et vous savez à peu près que demain, c'est un jour faste jusqu'à 12h30 et puis néfaste. Tout va pour le mieux, vu que vous n'êtes pas un esclave, vous n'auriez absolument aucun droit, ni une femme, parce qu'une femme chez les Romains durant l'Antiquité, c'est rarement pas rigolo. Vous jouissez donc d'une certaine liberté et vous rentrez chez vous. Mais comme vous êtes de nature taquine et comme vous n'avez pas vraiment sommeil, eh bien vous prenez encore le temps de graver un petit défixio, une petite malédiction, comme ça, avant de faire dodo. Parce que quand même, ce Caius, quel gros nul! Vous évoquez Déméter parce qu'elle est chouette, vous percez la plaque avec un clou. Une fois la chose faite, vous glissez cette malédiction dans une source profonde ou dans le tombeau d'un homme mort jeune, car tout le monde sait que ça rend la malédiction encore plus forte. Et puis après, vous enlevez votre toge, vous passez une petite nuit, et c'était une journée complètement ordinaire à Rome.
Et de 1, et de 2, et de 1, 2, 3, et... Vélo va, vélo vole. La voix va où vélo va. Vélo vire, vélo volte. Où va la vie, vélo va. Belle voiture, beau camion, beau véhicule à locomotion, beau wagon, belle station, beau train à très grande vision, bel avion, belle fusée, belle station espacionnée, belle colcose de spationose, bel espace de cosmos rose. Vélo va, vélo vol, la voix va où vélo va, vélo vire, vélo volte. Où va la vie, vélo va, belle moto, beau mécano, Spiderman, Superman, belle bécane à arbre à cam, turbochrome d'échappement. Vélo va, vélo vol, la voix va où vélo va, vélo vire, vélo volte. Où va la vie, vélo va, rien ne vaut le pédalo, avec pédale et avec son zoo, qui dévale la vallée. Avec sandales et avec ses pieds, belle péniche, beau canot, belle écluse, bon tirando, beau marin et beau matelot. Mais rien ne vaut le vélo. Vélo va, vélo vol, la voix va où vélo va, vélo vire, vélo volte. Où va la vie, vélo va, vélo va, vélo vol. La voix va où vélo va, vélo vire, vélo volte. Où va la vie, vélo va.
Dick Annegarn avec Vélo Vol. Vous écoutez Pantagruel, les 5 faits de la vie quotidienne des Romains, ce sera un autre classement, des Romains durant l'Antiquité les plus surprenants. Et on peut vous dire que culturellement, notre numéro 1 est très éloigné de nous.
Moins d'un kilomètre à faire, qui remportera le sprint entre José et Marie-Hélène.
Oh la testa comme un ballon, que gira, oh la testa comme un ballon.
Qui remportera le sprint final? Marie-Hélène revient. Et c'est José qui remporte l'épreuve.
En première place, la tradition de reconnaissance de l'enfant par le père. Attention, cette tradition n'a cours donc que chez les citoyens. Les esclaves, par exemple, ne la pratiquaient bien sûr pas du tout. Tout de suite après la naissance d'un enfant, chez les Romains, il est posé sur le sol de la maison par la sage-femme devant le père de famille. Celui-ci, si le bébé est un garçon, peut le reconnaître. Pour ce faire, il le soulève et le prend dans ses bras. À ce moment, il reconnaît donc l'enfant et s'engage à s'en occuper. Si c'est une fille, il ne la prend pas dans les bras, mais indique seulement qu'on la nourrissent. Ensuite, les enfants reconnus reçoivent leur première tétée. Si par contre l'enfant n'est pas choisi ou reconnu par le père, parce qu'il présente des signes de faiblesse, des malformations, pour d'autres raisons, l'enfant est généralement exposé tout simplement dans la voie publique. Il a alors de fortes chances d'être récupéré par un marchand d'esclaves qui le nourrira pour son usage ou pour le vendre plus tard. Et ça, c'est un tout petit peu changé parce qu'alors on vous certifie que si à la maternité, la sage-femme vous pose déjà l'enfant devant vous sur le sol, déjà normalement ça fait un petit choc, mais là si en plus le papa fait signe pour qu'on mette l'enfant dans la rue, rien que le dire, là c'est horrible, j'ai des frissons rien que dire des choses pareilles, donc ça a quand même un tout petit peu changé. Faut dire que les Romains étaient pas comme nous, hein, ils avaient une vision de la vie assez dure, le citoyen est presque nu toute l'année sous sa toge, on le redit, il mange pas trop, son corps est sec, sain pour être à l'abri de la maladie, il cherche dans la société et les autres la reconnaissance et la gloire. Hygiène, dureté de la vie, sérieux, sévérité, à notre avis, c'est sûr, les Romains, ils devaient être protestants. Pantagruel, c'est tout pour aujourd'hui. Un sujet donc suggéré par l'équipe de l'Université de Genève, les sciences de l'Antiquité. On vous rappelle de 17h30 à 23h sur la promenade Saint-Antoine à Genève, des stands, des animations. Revivez la vie antique. Merci à Mathias Brunimann qui était à la technique, François Piton pour le choix des chansons, Nicole Fontana pour les recherches. On vous souhaite un très très bon week-end à l'écoute de la première et on se retrouve lundi pour un nouveau classement dès 16h.
En Méditerranée, les morts de clandestins se comptent par centaines entre la Libye et l'Italie. La mer Égée, entre la Turquie et les îles grecques, est elle aussi devenue une voie d'accès très prisée des migrants. 15 minutes est allée sur place recueillir leurs témoignages et celui des personnes qui les accueillent. L'Europe, un rêve à portée de Zodiac, c'est le reportage de 15 minutes ce samedi à 12h40 sur la première.
16h30, c'est Vertigo avec vous, Pierre-Philippe Cader, bonjour.
Bonjour Lucas, comment allez-vous ?
Je vais bien et vous ?
Mais écoutez, je vais très bien, je vous remercie.
D'accord.
C'est à vous là normalement.
De faire une relance là ?
Bah oui.
Je me suis dit que j'allais voir ce qui se passait si je disais rien.
Non, bah alors je n'ai absolument pas peur du blanc. Mais le problème, c'est que vous savez, il y a ce système de secours qui se met en fonction dès qu'il y a du blanc. Puis clac, après, on passe sur Swiss Jazz ou je ne sais pas quoi. C'est pas possible.
Non, ça ne va pas.
Ça ne va pas. Alors, c'est pour ça qu'on dit toujours des bêtises entre 16h30 et 16h31.
Voilà, bah aujourd'hui, on ne va pas dire de bêtises, je propose.
Non, je propose effectivement qu'on fasse soft.
Voilà, Vertigo, Pierre-Philippe Cader, la première, 16h30, 18h. Bonne émission.
Merci Lucas.
Bon week-end.
Bon week-end à lundi.